Après le credo, les grands conciles. Une émission proposée par Mgr Jean-Pierre Battu.
La controverse entre Nestorius et Cyrille d'Alexandrie. Nous avons vu la dernière fois comment Nestorius, devenu patriarche de Constantinople, avait poussé jusqu'à ses ultimes conséquences la christologie dualiste de l'école d'Antioche, en prétendant que le Verbe de Dieu s'était uni à un homme complet, comme si cet homme existait déjà avant l'incarnation, et que Marie n'était que la mère de cet homme et non pas la mère de Dieu, la Théotokos. Henri Maroux a dressé un tableau sans complaisance de la prédication de Nestorius et de ses effets, je le cite. Moine près d'Antioche, puis prêtre de cette ville et prédicateur déjà renommé, Nestorius avait été appelé par l'empereur Théodose II au siège toujours disputé de la capitale Constantinople. Dès le lendemain de son intronisation, 10 avril 428, Nestorius donna libre cours à son caractère entier et violent, à son zèle un peu brouillon. Il partit aussitôt en guerre contre les hérétiques qui foisonnaient dans la capitale, réclamant l'intervention du pouvoir impérial et prenant lui-même contre eux l'initiative de mesures énergiques. À ce régime, il ne pouvait manquer de se faire nombre d'ennemis attentifs à relever ses maladresses. Celles-ci ne manquèrent pas. Les sermons qu'il fit prêcher, ou prêcha lui-même, exposaient sous une forme brutale et comme agressive les conclusions les plus hardies des théologiens d'Antioche sur la distinction des deux natures, contestant qu'on puisse dire en toute rigueur que dans la Passion le Verbe avait souffert et surtout refusant à la bienheureuse Vierge Marie le titre de Mère de Dieu, Théotokos, comme impropre, puisque c'est un homme qu'elle a enfanté, ou du moins comme dangereux. Il se faisait à lui-même, Nestorius, comme un épouvantail de ce titre que la piété chrétienne utilisait couramment. Entre bien d'autres expressions pareillement agressives, on raconta qu'il se refusait dans la personne de l'enfant Jésus à appeler Dieu un bébé de 2 ou 3 mois. C'est cette attaque contre le mot Théotokos qui provoqua le plus de scandale et fit éclater la crise. Fin de citation. Les remous suscités à Constantinople par la prédication de Nestorius ne pouvaient pas rester sans effet dans les autres églises. C'est d'ailleurs Nestorius lui-même qui avait pris l'initiative de mettre le pape Célestin au courant de la querelle autour du titre de Théotokos, en espérant bien sûr que le pape prendrait parti en sa faveur. Mais de même qu'au siècle précédent, le patriarche d'Alexandrie, Alexandre, avait à ses côtés un jeune diacre théologien, saint Athanase, de même le pape Célestin est lui aussi assisté par un jeune diacre promis à un grand avenir, un certain Léon, qui n'est autre que le futur pape Léon le Grand. Léon est proche d'un savant moine, Jean Cassien, originaire de Roumanie actuelle, et devenu abbé de Saint-Victor à Marseille. Et lorsque le pape Célestin reçoit de la part d'adversaires de Nestorius des notes qu'ils ont prises à partir des sermons qu'il a prononcés, le diacre Léon se souvient que Jean Cassien connaît le grec et qu'il a de grandes compétences théologiques, et il lui envoie tous ses textes pour qu'il les examine en détail. Mais pendant ce temps, le patriarcat d'Alexandrie entre en scène. Les relations entre Constantinople et Alexandrie étaient déjà difficiles. Alexandrie voyant d'un mauvais œil Constantinople revendiquer d'être la nouvelle Rome en s'appuyant sur le 3e canon du concile de 381. Déjà le patriarche d'Alexandrie Théophile, de 385 à 412, était entré en conflit avec le patriarche de Constantinople, qui, à l'époque, n'était autre que saint Jean Chrysostome. Et il avait comploté contre lui à distance d'une manière fort peu élégante et fort peu charitable. Cette machination de Théophile avait abouti à la déposition de Jean Chrysostome, qui, réhabilité puis de nouveau déposé, avait fini par mourir sur le chemin de l'exil. Les relations entre les deux patriarcats étaient donc déjà très détériorées par cette affaire lorsque commence la controverse autour de la prédication de Nestorius. D'autant que le neveu de Théophile, qui lui avait succédé en 412 sur le siège d'Alexandrie, était un homme très combatif. Il s'appelait Cyrille et c'était un grand théologien. En 428, Cyrille écrit aux évêques et aux moines pour exposer avec une grande fermeté, sans nommer d'ailleurs Nestorius, sa propre doctrine de l'incarnation et de la Vierge Théotokos. L'année suivante, c'est à Nestorius lui-même qu'il écrit, mais il se heurte de sa part à une fin de non-recevoir, et Nestorius lui fait la leçon avec condescendance en l'exhortant à la modération chrétienne. Le tempérament de saint Cyrille a été bien résumé par le père Camelot, je cite. Nestorius s'est plaint vivement des agissements du patriarche d'Alexandrie à son égard. Et il faut bien reconnaître que certains traits du caractère de saint Cyrille peuvent donner quelque apparence de raison à Nestorius et à ses partisans, anciens et modernes. On ne peut nier qu'il n'ait parfois manqué de cette modération que lui prêchait son adversaire Nestorius. L'initiative qu'il prend d'intervenir dans les affaires de Constantinople, la hâte et la précipitation dont il a fait preuve à Éphèse peuvent nous étonner, certaines intrigues même nous scandaliser. On répéterait volontiers un jugement ancien, saint Cyrille est saint, mais on ne peut pas dire que toutes ses actions soient saintes. Nous voilà donc prévenus. Avec saint Cyrille, nous allons devoir prendre acte de comportements peu édifiants, bien dans la ligne de ceux que son oncle Théophile avait eus à l'égard de saint Jean Chrysostome. Mais on aurait tort de réduire Cyrille à ce côté négatif. Comme prédicateur et pasteur, comme exégète et théologien, il se révèle d'une toute autre classe que Nestorius. Il faut donc nous pencher maintenant plus en détail sur sa théologie. Le point de départ de la christologie de saint Cyrille est très différent de celui de Nestorius. Prenant appui sur la parole de saint Jean, le Verbe s'est fait chair, il ne considère pas d'abord les deux natures du Christ, mais l'unique personne du Verbe qui existe de toute éternité et qui, à la fin des temps, s'est incarné. Le Verbe s'est vraiment fait chair. Il s'est approprié une humanité complète. Mais pour autant, il n'a pas changé en s'incarnant, et de même, la nature humaine n'a pas été absorbée dans la divinité, mais elle subsiste pleine et entière dans le Christ. Cyrille refuse donc absolument l'idée d'habitation du Verbe dans l'homme Jésus, ainsi que l'idée de conjonction de l'humain et du divin. C'est ainsi qu'il ne dit jamais « la chair du Christ a souffert », mais « le Verbe de Dieu a souffert dans sa chair ». Et pour synthétiser cela, il affirme que l'union du Verbe et de la nature humaine s'est faite en grec « katupostasine », c'est-à-dire en français « selon l'hypostase », ou si l'on préfère, « selon la personne ». La formule « une nature, trois hypostases » pour parler de la Trinité est un acquis des pères cappadociens. La nature unique et la nature divine. Les trois hypostases sont les trois personnes du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On aurait donc pu transposer facilement ces instruments de pensée pour parler du Christ, en disant « de même que Dieu est une seule nature en trois personnes, de même le Christ est une seule personne en deux natures ». Mais étrangement, la confusion régnait encore pour parler du Christ, et on mélangeait nature et hypostase. C'est ainsi que saint Cyrille lui-même reprendra jusqu'au bout la formule qu'il croit être d'Athanase et qui est en réalité d'Apollinaire, une seule nature incarnée du Dieu Verbe. Dans cette formule telle que la comprend Cyrille, le mot « nature » désigne le sujet subsistant, c'est-à-dire l'équivalent de l'hypostase, mais le moins qu'on puisse dire est qu'elle peut prêter à confusion. Citons à nouveau le père Camelot. Malgré ses lacunes, dues souvent à l'imprécision de sa théologie, on ne peut que rendre hommage à la valeur métaphysique de la théologie de saint Cyrille et au grand souffle religieux qui la traverse et qui l'anime. Plus que la théologie des Antiochiens qui risque de compromettre gravement l'unité du Verbe incarné, elle garde le sens et le respect du mystère du Christ, le sens du mystère de notre salut. En fait, après les définitions du Concile de Chalcédoine, qui lui apporteront sinon un correctif, du moins un contrepoids, c'est la théologie de saint Cyrille qui sera la théologie de l'Église. Retenons surtout de cette théologie ce qui en constitue l'intuition centrale, le sujet de l'incarnation et donc de tout ce que Jésus a vécu dans sa vie terrestre, c'est bien la deuxième personne de la Sainte Trinité. C'est pour cette raison que la Vierge Marie doit être dite à bon droit Mère de Dieu. Et c'est aussi pour cette raison que le Christ nous a sauvés. Un homme qui aurait été seulement associé, conjoint au Verbe de Dieu, n'aurait pas pu nous sauver, parce que ses actes n'auraient été que les actes d'un homme, et non ceux de Dieu lui-même accomplis dans notre chair. Voilà pourquoi saint Cyrille part en guerre contre Nestorius, jouant de son influence à la cour de Constantinople, par le biais de la sœur et de la femme de l'empereur, et en voyant au pape Célestin le dossier complet de l'affaire, après l'avoir prudemment fait traduire en latin. Si bien que le pape, convaincu, fait condamner Nestorius le 10 août 1430 par un synode romain, le menace de déposition s'il ne se rétracte pas, et charge Cyrille lui-même d'exécuter la sentence. Nous allons voir la prochaine fois comment Cyrille s'est acquitté de cette mission.